Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tu préfères rater la partie gauche de ta moustache toute ta vie, mais faire la droite parfaitement, ou tu préfères rater ta moustache droite toute ta vie, mais faire la gauche parfaitement?
Je préfère ma gauche ou ma droite, quoi. Allez, vas-y. Par contre, je suis nulle à répondre, mais j'adore.
D'accord, très bien. En fait, tu vois, il y a deux choses. C'est-à-dire, est-ce que tu performes plus du côté gauche? Est-ce que tu performes plus du côté droit? Vaut mieux qu'elle soit réussie où?
Ou alors, non, en fait, je pense qu'il faudrait que ce soit à droite. Comme ça, c'est mon bon profil.
Donc la droite, c'est-à-dire ta boucle d'oreille, bonne moustache, ouais. Et du coup le côté gauche...
Rien, vide.
Ok. Ouais. Et ben voilà, on a voté pour la mi-moustache, la mi-mousse, comme on dit. Bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours... Et la curiosité est mon plus beau défaut, évidemment. Ah non, mais parce que sinon, il n'y aurait pas de podcast, en fait. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé d'inviter un artiste qui a un engagement dans la communauté queer important. Je dirais même plus, indispensable. Il a ouvert l'année dernière une école de drag. Une école de drag? Quoi? Ça existe? Un Poudlard? Non, mieux, un pool drag.
Waouh.
Ouais, désolé. C'est la première fois, mais pas la dernière, que j'invite un drag king. Bienvenue pour ta Quinterview, j'ai les Adelphes.
Bonjour!
Bonjour! Ah voilà, ça c'est un bonjour net, vif, précis, chaleureux. Ça donne envie d'écouter cette nouvelle Quinterview. Bah, bienvenue!
Merci beaucoup!
Enfin, bienvenue, en même temps tu me reçois chez toi, donc bienvenue dans la Quinterview, mais chez toi.
C'est parfait.
C'est parfait. Dans un premier temps, je voulais m'adresser à Jay, parce que oui, tout le monde t'appelle Jay, pas Jen. Donc, dans un premier temps, je voulais m'adresser à Jay. Quels sont tes pronoms? Comment je dois m'adresser à toi?
Comme on parle de King, il, c'est plus simple. Mais sinon, les pronoms, je les utilise tous. C'est il ou elle. Voilà.
Ok, très bien. C'est quoi un petit peu ton histoire avant de rencontrer le drag? L'adolescence?
J'ai eu une enfance magique avec une maman, un papa, on ne ment pas aux enfants, non, pardon. Une maman, un papa, un petit frère adorable, on s'entendait trop, on faisait trop des vacances ensemble, on s'aimait de ouf, c'était génial. Il y a eu un drame familial dans ma famille qui a fait que tout ça s'est un peu éclaté. Je suis partie en maison d'éducation. Et ensuite, j'ai un peu été lâchée dans l'univers.
C'est quoi une maison d'éducation?
C'est une maison où on t'éduque. Hein. Tu as des cours de couture, tu as des cours de piano. Ça, c'est cool. voilà, quoi. C'est un truc un peu triste où t'as plein de meufs qui sont un peu toutes seules et... Et voilà, c'est pas hyper fun. C'est genre Poudlard en glauque, tu vois.
Ok, bon, après, on en parlera tout à l'heure du Poudlard un peu plus fun que tu as créé, construit et que tu animes encore aujourd'hui. Mais du coup, quand on t'a envoyé dans cette maison d'éducation, c'était pour une raison particulière? T'étais un cancre?
Non, j'étais très, très bonne élève. Mais c'est parce que, en fait, ma mère est décédée quand j'avais 17 ans. Et du coup, grosse panique de comment on gère des gosses. T'imagines, mon père, il s'est retrouvé jeune papa avec un gamin de 15 ans, une gamine de 17, complètement perdu dans la vie parce que voilà, on avait perdu nos repères, tout avait éclaté. Et voilà, et du coup, je suis partie en maison parce que fallait que je trouve un cadre, en fait. Mon but, c'était de sauver mon bac, tu vois. Genre, j'avais toujours été très, très bonne élève. J'étais au conservatoire, j'ai fait du piano, du solfège, du chant, blablabla. Et là, ouais, perdu dans l'espace et donc besoin de cadre, quoi.
Ok. Et c'est en faisant ton coming out à ton père que tout ça s'est un peu déclenché ou...
Non, mon coming out à mon père, je l'ai jamais fait. En fait, un jour, il a découvert que j'avais ramené une zouze à la maison quand je vivais encore chez lui.
Ok.
Et voilà. Donc, ça a créé un peu des tensions entre nous. C'est l'époque d'ailleurs où j'ai commencé à partir de l'appart, à essayer de trouver des solutions pour m'en sortir tranquillement, sachant que j'étais déjà dans des milieux un peu politisés, vite fait. Je savais que le refuge, ça existait, par exemple. Donc, j'y suis allée pour essayer de voir un peu s'ils pouvaient m'aider à ouvrir un compte en banque, des trucs. Genre, j'avais rien, tu vois, je savais pas comment...
T'avais quel âge?
À ce moment-là, je sais plus trop. Je crois que j'étais majeure parce que le refuge pouvait pas me trouver un hébergement. De toute façon, j'en avais un. Genre un tout petit espace que j'avais en échange de garder des gosses.
Okay.
Et que je partageais avec ma meilleure pote de l'époque. Enfin bon, c'était la galère de ouf. C'était un 9 mètres carrés au 7e étage d'un appartement, tu vois, genre vraiment avec des toits magnifiques. Parce que du coup, on allait sur les toits pour prendre le petit-déj, faire des apéros et tout.
Trop sympa.
C'était génial. Par contre, l'appart faisait 9 mètres carrés, on vivait à deux dedans. C'était un peu la galère.
Moins sympa.
Moins sympa.
Et donc, tu parlais du refuge. Quand tu te retournes vers le refuge, c'est un peu dans quel but? Et qu'est-ce que le refuge, pour ceux qui ne connaîtraient pas le refuge?
Le refuge, c'est une association qui permet... Enfin, aujourd'hui, je sais... Enfin, je m'y intéressais un peu moins parce que je me suis un peu éloignée. Mais à l'époque, en tout cas, et je crois que c'est toujours le cas, le but de cette asso, c'est d'accueillir les jeunes queers qui sont... isolés et qui n'ont pas d'endroit où dormir parce que, en général, souvent, c'est parce qu'il y a eu un conflit familial au moment de leur coming out. Aujourd'hui, ça a sans doute évolué. À l'époque, c'était ça. Et je le savais parce que je traînais pas mal dans des milieux féministes qui m'avaient récupérée, notamment à la Maison des Femmes de Paris, qui est un lieu où il y a une cave dans laquelle il y a des archives lesbiennes. Ça s'appelle les ARCL de Paris, c'est les archives lesbiennes de Paris. Et t'as mes trésors là-bas, des trucs de fou. Moi, je me souviens d'une lettre qu'on m'avait montrée de Monique Wittig qui écrivait à son amante. Et genre, elles avaient des trucs comme ça, tu vois, enfin, des trucs magnifiques, bref. Et c'était une maison où il y avait un jardin et où je traînais beaucoup et où j'ai appris énormément de choses. Et en fait, j'ai été féministe là-bas, j'ai été politisée là-bas. Et avant de rentrer dans les milieux queer et tout, j'étais là-bas et c'est là-bas que j'ai compris qu'il y avait ces assos qui existaient, comme le refuge, comme machin. Et en fait, ça a été un peu mon point de départ dans ma vie militante. C'était cet endroit-là où on m'a présenté un peu tout ce qui existait. Et un jour, on m'a dit, écoute, Jay, voilà, t'as... Je sais pas, je sais pas quel âge j'avais à l'époque, je devais avoir 20 ans... Bon, nous, on en a toutes 50-60. Il est temps que tu prennes ton envol, petit oiseau. Vas-y. Et puis, rejoins les gens. Va à la mutinerie. Va dans des assos queer et féministes avec des gens de ton âge. Va dans des manifs et tout. Et puis, vole de tes propres ailes. Parce que bon, nous, on est dépassés. C'était des meufs, notamment, qui faisaient partie des Gouine Rouge à l'époque, qui est une branche lesbienne du MLF.
Okay.
C'est une branche lesbienne, je crois, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, mais je me trompe peut-être, qui avait fait scission avec le MLF. Enfin bon, bref, à l'ancienne, tu vois, genre, voilà. Elle me racontait des trucs de ouf sur des villages séparatistes lesbiens où elles allaient passer des vacances. Parfois, il y en a qui restaient y vivre pendant un an et elles construisaient leur propre maison. Enfin, des trucs de ouf. Enfin,
des villages séparatistes lesbiens.
Ouais, ouais. Truc de ouf. Mais attends, ça existe encore, tu sais. Genre, j'ai des potes qui sont partis de temps en temps en vacances là-bas. En fait, le deal dans certains de ces villages, c'est tu viens en échange de apporter quelque chose, genre faire à bouffer ou faire un atelier où tu apprends aux gens à faire de la guitare ou des trucs comme ça, tu vois. Ou genre, tu viens réparer des maisons, tu as des skills en peinture ou voilà.
Ok. Un peu comme les Radical Fairies ou ce genre de choses-là, ouais. Ce genre d'initiative-là. Ok, ouais. Hyper intéressant. Donc, en grandissant, on va dire, donc t'étais majeur, donc tu trouves le refuge, ces associations féministes, puis queer, puis lesbiennes. Où est-ce que tu te reconnais dans tout ça?
Je pense qu'à ce moment-là, j'étais quand même jeune, j'avais perdu ma mère récemment, je savais plus trop où j'allais dans les études, dans ma vie, dans le taf, parce que je donnais des cours de piano pour me financer ma vie. Hein. Voilà, je vivais dans des endroits un peu galères où je payais pas le loyer, où je donnais 100 balles par mois, des trucs, enfin, je changeais souvent le lieu où vivre, enfin, bon, c'était un peu la galère. Et du coup, je pense que j'avais besoin de cadres et de quelqu'un qui, enfin, de personnes qui me donnent des règles de vie saines. Et j'ai trouvé des règles de vie communautaires saines qui m'ont fait du bien, en fait, à ce moment-là, et qui m'ont un peu dit, bon, voilà, deux, trois idées de principes que tu peux mettre en place dans ta vie pour que ça tienne la route à peu près. Voilà. Je pense que c'était ça, quoi. C'est pour ça que ça a toujours été très important pour moi. Enfin, moi, ça m'a sauvé la vie, la communauté, les communautés féministes, queer. Ça m'a... Ouais, de ouf.
À ce point-là ?
Bah, vraiment, ouais, je pense que... Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Quand je regarde en arrière, ouais, les galères de l'époque, laisse tomber. Je suis hyper content de là où j'en suis maintenant. J'ai mon appart, je vis avec ma meuf, j'ai mon école de drague, ça se passe bien, je suis épanouie, j'ai un travail alimentaire à côté où je suis épanouie aussi, ce qui n'est pas facile à trouver. Et je pense que j'en suis arrivée là, ouais, grâce à ces communautés qui m'ont soutenue et qui m'ont jamais trop lâchée, quoi, où je savais que quand ça allait pas ou quand j'avais un doute, je pouvais aller dans des groupes de parole, des trucs qui permettent d'aider, hein.
Ça t'a rendue militante ou t'étais militante en toi et tu le savais pas?
Ah non, 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 ça m'a rendue militante. Je me souviens que j'ai commencé à m'intéresser à... En fait, je me suis fait attraper par les mouvements féministes parce que je suis génération manif pour tous, en fait. Donc, c'est-à-dire, je suis la génération qui a subi les manifs pour tous quand j'étais jeune queer, hein, pas...
Comment ça? Tu veux dire que t'es pas en train de manifester un papa, une maman
c'est... On ne ment pas aux enfants. Non. Par contre, en fait, les premières manifs des manifs pour tous, moi, j'ai connu quand ils avaient pas encore leur designer qui leur ont fait tout en rose et bleu là. C'était l'époque où ils étaient encore libres de mettre les pancartes qu'ils voulaient. Et ils ont plus le droit d'utiliser leur propre pancarte et d'écrire ce qu'ils voulaient sur les pancartes parce que c'était beaucoup trop homophobe, sexiste, violent, raciste. Et c'est pour ça que ça a été lissé et que, en fait, les pancartes des manifs pour tous, après, si tu regardes, c'est tous... En fait, on leur donne des pancartes où il y a déjà écrit des trucs parce que sinon, ils partent trop en cacahuète. Les gens, ils sont ouf, tu vois. Bref. Et en fait, les toutes premières manifs... Des manifs pour tous, c'était en bas, c'était à Porte-Maillot. C'était l'endroit où je vivais chez mon père à l'époque. Et donc, moi, je vois ça, je vois cette violence-là, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai pris un micro pour enregistrer. Je me suis fait passer pour une journaliste et je suis allée interviewer les gens un peu pour voir, mais c'est quoi ce délire, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Et les gens, ils m'ont raconté des trucs, mais de fou, genre... Genre, il y en a, ils me disaient, ouais, on vient d'un petit village, et en fait, c'est le prêtre qui a organisé ce voyage, et en fait, on est venu en bus, et en fait, c'est un peu comme des vacances au ski, c'est hyper cool, tu vois. Et j'étais genre, mais waouh! Enfin, c'est lunaire, c'est un truc de ouf. Ou bien, t'avais des trucs un peu de base, genre, hyper con, genre, ouais, après, on pourrait se marier avec des chiens, enfin, bon, des trucs nuls. Mais, enfin, voilà, bref. Et donc, en fait, je commence à aller dans ces trucs-là. Et puis, à un moment, je repère quand même qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu genre contre-manifestants, qui sont un peu sur le côté. Je reconnais les têtes. Et on commence à se parler. On commence à se donner rendez-vous aux prochaines manifs dans les contre-manifs. Et en fait, on prend des verres à la fin. On devient potes. On commence à former des tout petits groupes, notamment Oui. Oui, je sais pas si vous vous souvenez, je parle à
ça
toi et aux gens.
Ça me parle de loin.
C'était oui mariage, oui PMA et oui adoption, je crois. Oui, oui, oui. Et c'était mes débuts. Et en fait, ça a grave marché après, oui, oui, oui. Et oui, 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 c'était début, petit collectif dans des bars en train de prendre des bières autour de genre des bars à genre la Mutte. C'est comme ça que j'ai découvert ce lieu. C'était l'endroit où on va prendre un verre pour se rencontrer, se politiser et aussi rencontrer des assos qui venaient nous voir du coup en me disant « Vous êtes motivés, bah, rejoignez-nous en fait ». Moi, j'ai été militante super relou, mais t'imagines même pas comment j'étais insupportable.
Sur une échelle de 1 à 10, t'étais militante relou à combien ?
À genre 13, tu vois. Genre, tu disais c'est bête, je te disais c'est spéciste de dire c'est bête. Voilà, tu vois. J'ai revu un pote il y a pas longtemps dans la rue qui m'a dit, mais tu te souviens que quand même on disait ça, comme on était relou et tout, et genre, mais on disait, on était imbuvable en fait, un truc de ouf. Bref, voilà.
Mais du coup, c'est-à-dire que du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre ça et c'est bête, c'est spéciste et maintenant.
Les années passant, j'ai commencé à être un peu épuisée. Il y a un moment, j'ai fait le fameux burn-out du militant. C'est-à-dire que genre, j'allais dans le métro, je voyais des affiches pour des pubs de maillots de bain sur des meufs, ça me faisait violence, tu vois. Genre, j'en pouvais plus. Genre, tout était violence, c'était horrible. Du coup, je me suis cassée en Allemagne, et je suis partie 3 ans, et j'ai fait un gros break avec le militantisme à ce moment-là, et je me suis concentrée sur ce que je faisais à côté, un peu en soum-soum, tranquillou dans mon coin, c'était le drag en fait. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire du drag, je vais me concentrer un peu sur le drag, ça me fait du bien. Et en fait, c'était une époque où j'en étais à faire de la recherche universitaire et j'étais en gender studies et je me suis dit, mon militantisme, je vais le mettre là-dedans. Okay. Et donc, j'ai fait ma recherche sur le drag king et le drag en général. Et j'ai commencé à me concentrer, à mettre de l'énergie dans le drag, dans les ateliers, dans l'organisation de soirées, de drag shows, de festivals, de choses comme ça. Et ça m'a fait un bien, mais fou quoi. Il y a une démarche de prendre soin des autres, proposer de faire du lien entre les gens, rester dans un truc où moi, ce qu'on m'a apporté dans ma vie, c'était ces espaces où on me met en lien avec des gens qui me ressemblent et du coup, ça me permet de me construire et ça me fait du bien et on prend soin de moi. Et c'est ça que j'essaie de proposer aux gens. Donc ça reste un truc très de care, communautaire, queer et tout.
Mais se retrouve autour de l'art aussi.
Qui se retrouve autour de l'art. Et ce qui fait du bien quand même aussi, c'est que quand tu fais du drag et que t'as un message à faire passer vénère, si t'as un message à faire passer vénère dans une manif, au mégaphone, et ben tu te prends des œufs pourris dans la gueule, si tu le fais sur scène et que tu le présentes de façon poétique, artistique, etc., même si tu dis un truc vénère qui s'adresse au public devant toi, à la fin, t'es applaudi. C'est quand même assez agréable, tu vois. Et voilà, c'est un truc qui, du coup, fait du bien. J'ai le souvenir d'un king que j'avais programmé qui parlait de grossophobie sur scène et qui avait parlé de grossophobie sur scène dans une perf géniale, en plus, trop réussie, magnifique. Et public avec 90% de gens minces, tu vois. Et il y allait fort, hein. Et c'était vraiment... Enfin, on a tous pris une claque de ouf. Et il s'est fait applaudir à la fin à balle. Et il était... Enfin, voilà. Et je me suis dit, mais ça, c'est vraiment... Bon, maintenant, il y en a beaucoup plus des perfs qui sont avec des messages engagés et tout. Mais à l'époque, c'était assez rare. C'était une des premières fois. Et je m'étais dit, mais c'est ça, en fait. C'est pour ça, en fait, que le drag, ça me fait du bien. Enfin, c'est pour ça que je trouve que le drag, c'est un outil intelligent aussi pour faire passer des messages. Mais pas que non plus. Tu vois, c'est pas uniquement ça.
Mais ça en fait partie.
Mais ça en fait partie, ouais.
Eh bien, justement, on va commencer un peu d'arriver gentiment sur le drag, maintenant qu'on a parlé de Jay, parce que, voilà, pour la Queenterview, j'ai une assistante éditoriale, elle s'appelle Mia, elle est très impliquée dans son travail de reporter du haut de ses 4 ans et demi, même si elle veut dire 4 ans tout court. Et du coup, elle a toujours plein de questions, elle se pose plein de questions, elle est accompagnée de ses parents Alice et Gilles, qui l'accompagne sur les réseaux sociaux de mes invités. Et du coup, elle se pose plein de questions et on va déjà lui dire bonjour. Bonjour Mia.
Bonjour, je m'appelle Mia. J'ai 4h30, je ne fais plus la sieste l'après-midi.
Bonjour Mia, c'est adorable.
Alors Mia, quelle est ta première question ?
C'est quoi le drag ?
C'est quoi le drag ? Damn ! Pour moi, le drag, c'est une excuse qu'on se donne à soi-même pour performer quelque chose qu'on n'ose pas performer au quotidien. Le drag, je l'ai toujours vécu comme au départ et encore aujourd'hui, même un peu moins parce que ça s'est un peu professionnalisé, mais au départ, beaucoup comme une façon de faire du care pour...
Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis faire du care, pardon ?
Prendre soin de moi, prendre soin des autres et voilà.
Prendre soin des gens, prendre soin de soi.
Voilà. Et être en groupe, sortir en meute de king dans des soirées, être euphorique à fond, se trouver magnifique. Et ça, du coup, c'est pour ça, tu vois, que je le vois comme une façon de faire des choses qu'on n'ose pas faire. C'est une excuse qu'on se donne à soi-même pour faire des choses qu'on n'oserait pas faire. Genre, cette chemise un peu trop flashy que tu as envie de mettre mais que tu n'oses pas mettre, comme tu es en drag, c'est OK, tu vois, il y a un truc comme ça. Et quand tu fais du drag pendant longtemps, il y a un moment où ces chemises un peu flashy, ben en fait, tu les mets même quand t'es pas en drague, parce qu'il y a un truc de ton look qui il prend un peu du galon, parce qu'en fait, tu finis par les porter, en fait, ces fringues de drague, et ça fait du bien, en fait. Il y a un truc voilà, très positif là-dedans.
Donc, il y a un côté un peu super-héros ou cape de super-héros ou cape d'invincibilité qui fait qu'on peut tester plein de choses parce que c'est pas soi et on est un petit peu en dehors de soi. Et au final, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que ça déborde en fait sur la vie. C'est-à-dire que le personnage de super-héros devient un peu un super-héros du quotidien et t'arrives à affirmer plus de choses et à faire plus de choses en out of drag.
Ouais, c'est très bien résumé. C'est bien cette idée de cap d'invincibilité là.
Une nouvelle question de Mia.
C'est quoi que t'aimes le plus quand t'es drag king ?
Ce que j'aime le plus quand je suis drag king. Je crois que c'est être en troupe. C'est sur scène, c'est être en troupe. Dans l'organisation, c'est être en troupe. après les ateliers, c'est sortir en troupe. En fait, moi, ce que j'adore, j'ai toujours fait du théâtre. Tu vois, quand je hoste, ce que je préfère, c'est hoster. Sur scène, en tout cas. Parce qu'en fait, je vais me donner à 1000% parce que derrière, il y a mes kings que j'ai chouchouté pendant un mois en les programmant, à qui j'ai demandé si tout allait bien 15 000 fois, avec qui on a répété, que j'ai eu au téléphone, que je connais ou pas d'ailleurs, et que on s'est vu dans la répète juste avant, et que je sais qu'ils stressent, et que j'ai envie que le public il les accueille bien, qu'ils soient chauds, et voilà, c'est cet esprit-là que j'adore.
Hoster, ça veut dire animer. Toi, c'est le groupe avant tout. C'est groupe associatif, groupe pour créer, groupe artistique. Il y a cette notion-là de tout ton art, seul, il t'excite moins, quoi.
Bah ouais.
Très bien. Une nouvelle question, Mia.
Pourquoi t'as une moustache ?
Pourquoi j'ai mis une moustache ? Parce que c'est un peu un symbole king, mais aussi parce que à la base, quand j'ai commencé à faire du king, en fait, je le faisais de façon très perso avec ma meuf de l'époque, qui est devenue une très bonne amie, qui s'appelle Marion, et qui est mon frère king, qui est dans ma house, qui s'appelle Elliot des Adelphes. Et on était ensemble à l'époque, en 2013, damn. Et en fait, on avait découvert un peu le drag king et on se maquillait en king, un peu comme un truc kinky entre nous. Bon, désolé Marion de balancer ça, mais bon, voilà. Et en fait, notre trip, c'était aussi, en dehors du fait que c'était un truc un peu perso entre nous, on pensait vraiment que c'était un délire à nous. Hein.
Genre, que vous l'aviez inventé.
Non, parce que j'imagine que j'ai dû voir des vidéos, j'ai dû voir quelque chose, tu vois. J'ai trouvé des tutos YouTube de Makeup King, en fait. Donc, j'ai dû trouver quelque chose, je me souviens plus, je t'avoue. Mais qu'on l'avait inventé, en tout cas, ouais, on savait pas que c'était à ce point-là un truc, quoi. Et en fait, notre délire, c'était notamment de sortir dans des soirées PD et d'essayer d'aller draguer des mecs, ou en tout cas, pas forcément draguer frontalement, en vrai, mais ça
flirter,
nous faisait marrer.
Quoi. Ouais, faire des petits eye contact.
On avait envie d'être pris pour des beaux PD, tu vois. Et on se disait, c'est... Non, mais on se pose pas de questions sur notre genre, tranquille. Mais le king, c'est juste un truc à nous, tranquille. C'est pas du tout un truc transgressif qu'on est en train de faire, tu vois. Genre juste, non, non, c'est juste un petit délire entre nous, tu vois.
Oui, on est juste, voilà, on s'est juste, on essaye juste d'être les plus beaux garçons possibles pour choper des beaux garçons. Mais à part ça, non, mais bah, non, c'est normal.
Bah oui.
La base.
Mais qui ne fait pas ça, en fait. Et aussi, il y avait le truc où Elliot dansait extrêmement bien, danse toujours extrêmement bien d'ailleurs. Moi, je danse. J'aime danser, mais je danse pas extrêmement bien comme lui. Et du coup, bah, lui, pour le coup, il avait du succès en vrai. Je me souviens d'une fois d'un très très beau garçon blond qui était nul dragué et j'étais en mode waouh, c'est ouf, trop stylé. Tu vois, bon, bref. Bon. Et donc à la base, la moustache, c'était quand même une volonté de travestissement au sens. Ouais, vraiment, ce tentative de passing, tu vois.
Alors, passing, ça veut dire ?
Alors, passing, c'est passer dans un genre. Voilà, moi, mon but, c'était de passer pour un mec. Ça ne marche pas. J'en ai beaucoup souffert. Et puis ensuite, je me suis réconciliée avec ça en me disant que le drag, c'est aussi, autre définition, en fait, une tentative de passing échouée que tu embellis.
Ouais, que tu sublimes.
Voilà. Mm-hmm. Mais voilà, donc la moustache, c'était ça. C'était tentative de passing à l'époque. Ensuite, assumer que je ne passe pas et que donc on va sublimer ça.
On va mettre de la paillette. Très bien. Eh bah, ben, je pense que Mia a toutes les réponses à ces questions. On a été un peu exhaustif, mais au moins, ça permet à tout le monde, à Mia et aux autres, de comprendre. Eh bah, ben, merci beaucoup, Mia, pour toutes tes questions.
Au revoir.
Bisous, à très bientôt. Et merci à ses parents, Alice et Gilles, de lui avoir permis à Mia de se poser toutes ces questions.
Gros bisous.
Gros bisous. Justement, on a commencé un petit peu d'en parler là via les questions de Mia, mais comment tu as découvert le drag, au final. C'est quoi ta première vision du drag, ta première approche du drag avant qu'avec Elliot, vous maquillez pour la première fois, etc., ou vous essayez de vous kinguer pour la première fois, c'était quoi ta découverte du drag? Tu t'es dit, oh, mais c'est sympa, tu rompres pas ça.
Eh bien, c'est drôle que tu poses cette question, parce que justement, hier, j'ai fait un cours de make-up drag king avec Thomas Occhio pour le Grand Control, qui faisait un drag control, là. Et Thomas, pendant le cours, il a cité ce film qui s'appelle Victor Victoria. C'est drôle parce que moi, c'est le film qui m'a fait découvrir le king. Enfin, qui m'a donné envie d'en faire, en tout cas. Parce que c'est pas présenté comme du king dans le film Victor Victoria. Mais en vrai, moi, j'avais envie de devenir cette personne, quoi. Magnifique. Victor Victoria, c'est l'histoire d'une chanteuse qui, pour qui ça ne fonctionne pas, qui ne trouve pas de scène. Du coup, qui se fait passer pour un garçon. Donc, qui... En gros, ce king met dans une tentative de passing et qui se fait passer pour un garçon qui se queen.
Okay.
C'est la boîte dans la boîte dans la boîte.
Ok. En fait, est-ce que Victor Victoria, on peut dire que c'est au king ce que Priscilla, folle du désert, est au queen?
Ah, pas à ce point-là, je pense. Je ne sais pas à quel point ça a marqué tant de kings que ça, mais en tout cas, moi, ça a vraiment été un truc où je me disais, mais je veux être cette personne, quoi. C'est ce que je veux faire. C'est magnifique. Et Thomas Occhio aussi. Donc, on est deux.
Et donc, quand tu découvres ça tout de suite, tu passes dans cette phase d'expérimentation avec ta copine de l'époque, ou ça vient un peu plus tard, ou ça reste toujours dans une partie de ta tête, ou comment ça se fait?
C'est une époque où je suis assez militante, et en fait dans les groupes militants on a tendance à beaucoup faire des workshops, on fait des ateliers, en fait on fait des ateliers pour tout et rien, on fait des ateliers DIY, donc do it yourself, selle de vélo, fabrique ton pisse debout, enfin vraiment voilà.
Ok, tu sais faire une selle de vélo?
Non.
Ah, t'as pas participé à cet atelier là?
Tu en as besoin?
Toujours, enfin, tout du moins, si jamais un jour je fais voler ma selle de vélo, bah tu vois, hop, j'ai l'astuce pour en préparer. Bah enfin, du coup, non, bon, c'est pas grave.
Enfin, bon, voilà, on faisait des ateliers pour tout et rien. Et du coup, assez naturellement, on s'est dit avec Marion, ben on va faire un atelier drag king. On en a jamais fait avec des gens et on n'est pas drag king, mais c'est pas grave. On va apprendre aux gens à en faire. Enfin, en fait, on n'était pas dans un truc qu'on va apprendre aux gens à en faire. On était dans un truc qu'on va faire ça ensemble avec les gens. Tu vois, c'était cette démarche-là. Et il se trouve que il y a un copain à moi qui s'appelle Sam, qui était pote avec une prof qui était dans notre université à l'époque, qui s'appelait Raquel Eborgui. Et cette personne, c'était quelqu'un dont j'étais très fan, qui a écrit pas mal de bouquins sur le King, qui a fait beaucoup, beaucoup de King et tout. Et en fait, Sam me dit « Oh, ben, j'ai invité Raquel Eborgui à ton atelier !» Et j'étais genre « Oh !» La pression de ouf. Et en fait, Raquel arrive et elle me dit, Yael me dit, je sais pas ce que c'est ses pronoms, mais on va dire Yael. Yael me dit, je t'arrête tout de suite, ce que tu t'apprêtes à faire, c'est un atelier de théâtre parce que j'arrive et tu es déjà maquillée. Or, le principe d'un atelier drag king, c'est de faire les choses ensemble et de traverser l'expérience ensemble. Et donc, elle me dit trois solutions. Soit je te laisse faire ton atelier, et voilà. Soit je te donne des tips pendant l'atelier, soit je le dirige pour toi, si tu veux, puisque j'ai l'habitude de diriger des ateliers, voilà. Et donc, je lui dis, mais please, grave, dirige mon atelier de ouf. Et donc, j'ai pris des notes. Et en fait, la direction de son atelier, c'est devenu le squelette de la direction de mes ateliers qui restait tel quel aujourd'hui, avec des ajouts de copains clowns ou comédiens qui sont passés dans les cours et qui m'ont donné des tips d'exercices de théâtre, de choses comme ça. Mais le principe de base de Raquelé, qui était, il y a une partie dans un espace privé où on skigne, une partie sortie dans l'espace public où on se confronte aux autres et où on sème le trouble dans le genre, vraiment à la Judith Butler, mais concrètement, physiquement, tu vois. On va vraiment semer le trouble dans le genre, dans la rue. Et ensuite, on débriefe. Elle faisait un retour. Elle faisait un retour dans l'espace premier. Moi, je le fais plutôt dans des soirées queer où j'emmène les gens voir des drag shows. Ça, c'est resté comme le squelette de base, la structure de mon atelier, quoi.
Parce que, en fait, pour être sûr de bien comprendre et que nos auditeurs comprennent bien aussi, c'est que pour beaucoup, le drag a été... leur premier pas dans le drag était une démarche artistique. C'est-à-dire, il y a eu cette démarche artistique pour créer, pour performer, pour monter sur scène, pour raconter des histoires, etc. Toi, ça a tout de suite été une autre démarche qui était d'atelier, de facilitateur, de rencontre, facilitatrice. Enfin, voilà, en gros, ce truc de la rencontre et du développement ensemble plutôt que de la performance. Et c'est pour ça que quand je te demande tes premiers pas dans le drag, c'était comment et tout, en fait c'est pour ça que tu parles tout de suite des ateliers et pas de perf, pas de d'animer des soirées, etc.
Ouais. Oui, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui ce que je fais, c'est beaucoup des photoshoots, beaucoup organiser des drag shows, beaucoup mettre en réseau, faire des projets avec des réals, des docus, enfin il y a plein de choses. Je fais de la scène aussi maintenant. Enfin, j'en ai toujours fait, mais j'en fais plus. Mais c'est vrai que le truc premier, c'était les ateliers, en effet. Et bon, l'école, c'est les ateliers 2.0 un peu.
Et donc, quand tu parlais de la première fois où tu t'es retrouvée en drague, tu t'es tout de suite plus aimée, tu t'es dit wow. Bah ouais, c'est moi, c'est clairement moi.
Ah ouais, c'était un truc de ouf. Je me suis trouvée très beau. Et en fait, c'est un truc que j'ai toujours fait dans mes ateliers. C'est si tu te vois pas maquillée, parce que tu te maquilles pas toi-même, quand tu te découvres, je te filme en train de te découvrir et je te donne cette vidéo. Parce que moi, j'ai encore la vidéo de la première fois où je suis en king et où Marion est en train de me filmer et où je me découvre dans le miroir, en king pour la première fois. Truc de ouf. Et j'ai la vidéo aussi de Elliot, donc Marion, Elliot, en train de se découvrir en drag pour la toute première fois. Et c'est mais magique, ça me fout les poils. Enfin bon, voilà. Et donc, je m'étais trouvée... C'est très étrange. Je m'étais trouvée... sur le coup, la toute première fois, je sais pas si je m'étais trouvée beau. J'avais trouvé que je ressemblais à mon frère. Je m'étais trouvée... beau, sort of. Après, j'avais appris à me maquiller d'une façon qui me plaisait plus. Et donc, les autres premières fois où c'était moi qui me maquillais, je me trouvais beau pour le coup. Il y avait un truc où je me trouvais entier parce que c'était aussi une époque où j'étais très fortement confrontée mes questionnements sur le sexisme très, 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 très fort. Et donc, il y avait ce truc aussi où, très en colère, il y avait ce truc où l'impression d'entièreté quand t'es un homme, tu vois, et d'être une moitié quand t'es une meuf ou quand t'es perçue comme une meuf, en tout cas. Et du coup, ce truc où tu te trouves entier, moi, je l'avais ressenti à ce moment-là. Bon, après, je pense que c'était un peu lié à mes questionnements de genre aussi, hein, dont j'avais pas trop méga conscience à l'époque. Je suis pas en train de faire un personnage, c'est quand même moi, je suis pas dans la peau de quelqu'un que j'imite, donc c'est pas du transformisme, tu rentres pas dans la peau d'un personnage, tu vois, c'est quand même toi, avec tes traits, et tu t'es transformé, mais enfin, genre, c'est fou, quoi. Tu te transformes en petit chien fou, tu vois, à sauter partout et à... Enfin, vraiment, moi, les ateliers, c'est trop drôle parce que une fois que les gens sont kingés, souvent, ils se transforment en espèce de meute de loups fou, en groupe de scouts qui se sautent les uns sur les autres et qui font des pyramides. Mais, mais vraiment, mais dans la rue, ils font... Enfin, tu vois. Et les plus timides, ceux qui me disent... À chaque fois, ceux qui me disent au début de l'atelier... Jay, tu nous mets pas sur une scène à la fin. Hein. On va pas sur une scène à la fin, hein, parce que il y a beaucoup d'ateliers qui font ça et c'est un peu connu pour ça, les ateliers King. Pour après, tu t'es lancé comme ça sur une scène et moi je suis toujours non, ne vous inquiétez pas. Par contre, en général, je les emmène quand même dans une soirée queer où on est un peu annoncé comme une troupe qui arrive itinérante qui va déambuler dans la soirée pour quand même leur foutre un petit peu la pression, mais pas non plus en mode gros spotlight sur la gueule. Et c'est les plus timides au début qui me disaient « on va pas sur scène », qui, en fait, dans la soirée, se lâchent, commencent à danser, à se déshabiller, à faire un show, à avoir la foule qui s'écarte en faisant un cercle autour et à faire une espèce de strip comme ça, improvisé, à danser comme des malades. Et genre, t'es en mode « ok, waouh !» Genre, en fait, la scène, t'avais pas besoin d'en avoir une. Elle est sous tes pieds, tu l'as créée toute seule, tu vois, c'est un truc de ouf. Enfin, bon.
J'ai une question. Que c'est vraiment la première fois que je la posais, je la pose strictement jamais. Comment t'as trouvé ton nom? Jay Les Adelphes.
En fait, avec Elliot, on était allé voir une pièce de théâtre de Léonie Pernet qui s'appelle Adelphes. Et je lui avais demandé à la fin ce que ça voulait dire. Et c'est elle qui m'avait dit que ça venait du grec et que ça voulait dire frère et sœur, en fait. Adelphité, c'est la sororité, la fraternité, mais sans genre, en fait. C'est pas genré.
Ok, c'est ensemble, quoi.
C'est des liens très forts qui lient deux personnes comme des frères et des sœurs, mais c'est comme Geschwister ou siblings. Geschwister en allemand, ou siblings, tu vois, c'est des mots qui veulent dire fraternité et sororité à la fois, qui veulent dire en fait adelphité, mais c'est pas genré, tu vois, c'est pas sisterhood, c'est siblings.
Ok. Et donc ça, tu t'es dit, ça me correspond.
Ah bah, on est parti de cette pièce et on s'est dit, mais vas-y, on est des adelphes en fait, toi et moi, Elliot, on est des adelphes, tu vois. En fait, on s'est dit ça entre nous. On s'est dit, toi et moi, en fait, c'est ce qu'on est. On est des adelphes, en fait. Mais on s'est toujours pas dit qu'on se posait des questions sur notre genre.
C'est toujours pas.
Ben non, c'est juste entre nous, bien sûr. Trop mignon. Envie de nous faire des bisous là, à l'époque. Bref, trop chou. Et du coup, on s'est dit, bah en fait, on est des adelphes. Donc, on va être Jay des adelphes et Elliot des adelphes.
Tout simplement.
Puisque c'est ce qu'on est. Et on a créé notre house comme ça, en fait, sans le savoir, tu vois. Mais voilà.
Ok. Pour ceux qui ont le son et pas l'image, il ressemble à quoi, Jay? Jay des Adelphes, c'est qui son esthétique, son look, comment on reconnaît Jay? Qu'est-ce que tu as voulu mettre dans Jay?
Alors, Jay sur scène, c'est un joli garçon avec souvent un trait de paillettes bleues sur la gueule. Un peu à la David Bowie, oui.
Ok.
Et Jay en atelier ou dans l'école, c'est un peu chill, genre sans make-up. Je viens pas en pyjama, mais je viens en... je me sape pas des masses. Je viens en mode, c'est pratique. Et mon but, c'est je vais transpirer et je vais être à 100% pour vous. Donc, en fait, je suis pas hyper en mode joli garçon, tu vois. Mais sur scène, j'ai pas vraiment... C'est pas un personnage, puisque c'est une identité de genre, en fait. Ça a longtemps été une... partie de mes identités de genre, le king. Et donc, il n'y a pas Jay des Adelphes et Jay dans la vie, tu vois. Il y a Jay et puis, le nom de cette house, c'est les Adelphes. Et le drag king, ça faisait partie de mon identité. Aujourd'hui, bon, forcément, c'est devenu aussi quelque chose d'artistique, que j'ai beaucoup professionnalisé, travaillé et rendu sérieux et tout, avec des collabs et tout ça. Donc, forcément, mais... moi, j'ai pas commencé en créant un personnage, en fait. Donc, juste, c'est moi quand je me sape. Et de manière générale, out of drag aussi, hein, je suis un peu sapée, tu sais.
Mais je le vois,
j'aime
je
bien
le vois.
Les trucs qui brillent. J'aime bien les talons hauts. J'aime bien la dentelle noire. J'aime bien être sexy. J'aime bien les beaux costumes. Voilà.
Ok. Et c'est vrai que contrairement au Queen, de manière générale, le King, en plus de ça, part de ses... de son naturel.
Les kings, c'est plus
oui,
naturel.
Exactement. C'est, par exemple, on se met pas de perruque quand on est king.
Alors, il y en a qui le font. Mais en fait, t'as des kings qui ont un peu évolué et grandi dans le milieu des queens, du coup, qui font un peu du queen, même s'ils sont kings, et donc qui vont mettre des perruques, qui vont un peu reprendre les codes des queens. Et il y a les kings qui ont évolué plutôt dans le milieu des kings et qui, du coup, ont pas cette culture-là de la perruque et tout, parce que c'est juste une histoire différente, en fait, et des mouvements qui sont très différents. Moi, pour avoir fait ma recherche là-dessus, c'est un truc que j'ai capté assez vite, en fait. C'est juste des choses qui sont très différentes, le king et le queen. Mais t'as des kings... tu vois, je trouve que Armand Sanche, par exemple, il est un peu queen, quoi, tu vois. Il met des perruques, enfin... Il a fait la Drag Me Up, qui est quand même une compète drag queen. Moi, la Drag Me Up, si Armand, il y va, je le soutiens corps et âme. Mais par contre, la flemme... Enfin, c'est pas du tout ma démarche, tu vois. Genre, la compète... Mais donc, c'est très différent. Mais t'en as un. Hein. Judas aussi, Judas la Vidange, c'est quelqu'un qui a un peu grandi chez les queens. Et il est très... c'est un king très esthétique. Thomas Occhio, il fait des perfs très lissés. Alors lui, il vient plutôt du milieu burlesque. Mais quand même, il a des perruques aussi. Il fait des trucs très lissés, très beaux, très soignés, parfaits et tout. À côté, t'as Jésus la Vidange, hyper punk, Hayden la Vidange, hyper punk. Moi, j'adore. Je me souviens, Hayden, une des premières fois où j'avais organisé, enfin, où je l'avais programmé lui, il y a plusieurs années pour un show, je l'avais vu perf et je m'étais dit, mais en fait, il a tellement un univers énorme et immense et riche à l'intérieur de lui que ça déborde, mais beaucoup trop pour une perf. Il faudrait qu'il ait son propre cabaret, en fait, ce king. Ce frère, j'allais dire. Bref. Et en fait, c'est ce qu'il a fait plus tard. Il a fait son cabaret. Maintenant, il a le cabaret des possibles. Et bien sûr que enfin, là, il était trop grand pour juste une perf.
C'est la fin de la première partie de la Queenterview de Jay des Adelphes. Oui, exceptionnellement, c'est un épisode en deux parties, car beaucoup de sujets importants sont abordés, et ça vaut le coup de prendre le temps de tous les traiter. Dans la deuxième partie de l'épisode, vous saurez pourquoi les drag kings et les drag queens n'ont pas la même popularité.
En fait, à la grande question « Pourquoi les queens, elles sont plus mieux connues que les kings ?» La réponse, c'est pas « Parce que les queens, c'est des mecs, et que les kings, c'est des meufs, et qu'on est dans un monde sexiste, bitch. » Tu vois, c'est pas ça, en fait. Selon ma recherche, c'est pas ça.
La deuxième partie de l'épisode est disponible tout de suite. À toutes.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.